au programme de VOA Afrique. À très bientôt.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du lundi 20 juin 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, les dirigeants d'Afrique de l'Est réunis à Nairobi tentent d'apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda. La Belgique remet une relique de Patrice Lumumba à la famille du héros congolais assassiné en 1961. En Éthiopie, les rebelles Oromo sont accusés d'avoir exécuté des centaines de villageois. L'Afrique est otage de l'invasion russe en Ukraine, affirme Volodymyr Zelensky à l'Union africaine. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Les dirigeants des 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est sont réunis à Nairobi, au Kenya, pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nathalie Barge.
Ce sommet régional intervient alors que les tensions ont redoublé entre Kigali et Kinshasa. Vendredi, un soldat congolais a été tué et 2 policiers rwandais et des civils ont été blessés à un poste frontière entre Goma et Gisenyi. Le président kényan Uhuru Kenyatta a appelé mercredi au déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC. La force régionale de l'Afrique de l'Est doit être déployée immédiatement dans les provinces d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu afin de stabiliser la région et de rétablir la paix, avait-il précisé. Des chefs militaires régionaux des 7 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est devaient se retrouver hier pour préparer le déploiement de cette force. Le gouvernement congolais a refusé que le Rwanda participe à cette force régionale sur son sol. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23, ce que démentent les autorités rwandaises.
Les rebelles du M23 ont annoncé aujourd'hui la réouverture d'un poste frontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, dont ils s'étaient emparés le 13 juin à Bunagana notamment. La réouverture de la frontière à Bunagana ne signifie pas pour autant que les véhicules peuvent circuler par la route jusqu'à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. La ligne de front est à proximité avec les forces armées de la RDC positionnées au pont Ruangoba, à environ 25 kilomètres de la frontière. Des excuses réitérées et enfin un cercueil. 61 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, la Belgique a restitué à la République démocratique du Congo une dent du héros congolais aujourd'hui lors d'une cérémonie empreinte d'émotion à Bruxelles. Jacques Aristide.
Le lundi 20 juin 2022 entre dans les annales de notre histoire commune. Le retour de Patrice Emery Lumumba permet à la RD Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire fragmentée par la tragédie de sa disparition, a déclaré le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalou-Kondé lors de la cérémonie dans la capitale belge. Dans un discours retransmis en direct à la télévision, le premier ministre belge Alexander De Croo a renouvelé les excuses déjà formulées par le gouvernement belge en 2002 pour sa responsabilité morale dans cette disparition. La dent a été saisie par la justice en 2016 chez la fille d'un policier belge qui avait participé à la disparition du corps après l'assassinat le 17 janvier 1961. Contenue dans un coffret, la dent a été placée dans un cercueil qui a été remis aux autorités congolaises en présence de François, Juliana et Roland Lumumba, les enfants du leader assassiné et de leur famille. La dernière relique de Patrice Lumumba va rejoindre un mémorial à son nom à Kinshasa.
Le principal opposant sénégalais a appelé aujourd'hui à une nouvelle manifestation contre le pouvoir. Ce sera le 29 juin, ainsi qu'à des concerts de casseroles à partir de mercredi. Le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national, a dit Ousmane Sonko devant la presse. Dakar et la Casamance ont été le théâtre vendredi d'affrontements qui ont fait 3 morts quand des jeunes ont défié une interdiction de manifester. L'opposition sénégalaise comptait protester contre l'invalidation de sa liste nationale de candidats Pour les législatives du 31 juillet, les autorités avaient interdit les manifestations en invoquant le risque de troubles. En Éthiopie, des centaines de civils de l'ethnie Amhara ont été tués ce week-end dans la région de l'Oromia, ont affirmé des survivants. Ils accusent un groupe rebelle Oromo. Le point avec Rosine Monizero.
Les témoins qui ont parlé sous couvert d'anonymat ont accusé des rebelles de l'armée de libération Oromo d'avoir froidement exécuté des villageois de la localité de Tolé dans le district de Gimbi, dans l'ouest de l'Éthiopie. Un membre de l'ethnie Amhara a déclaré avoir aidé à enterrer 61 corps dimanche et affirmé que le nombre total était de 351 morts. Sans mentionner l'armée de libération Oromo, le premier ministre Abiy Ahmed, lui-même d'origine Oromo, a affirmé lundi sur Twitter que les attaques contre des civils innocents et la destruction des moyens de subsistance par des forces illégales et irrégulières sont inacceptables. Mais un porte-parole des rebelles Oromo, Oda Tarbi, a accusé une milice régionale pro-gouvernementale d'avoir commis ces meurtres et réclamé une enquête. Il y a quelques jours, la Commission éthiopienne des droits de l'homme a accusé des forces de sécurité d'avoir sommairement exécuté dans la capitale de la région de Gambela des habitants soupçonnés de collaborer avec l'armée de libération Oromo.
Des médecins, infirmiers et enseignants se sont mis en grève ce lundi au Zimbabwe pour protester contre leurs conditions salariales. Les enseignants ont de leur côté appelé à une grève de 5 jours selon un communiqué d'un syndicat d'enseignants. Libye, une médiation de l'ONU au Caire du 12 au 19 juin pour favoriser un accord entre camps rivaux libyens sur un cadre constitutionnel permettant la tenue d'élections s'est soldée aujourd'hui par un nouvel échec. La tenue des élections présidentielles et législatives reportées en décembre 2021 semble hautement improbable. Deux gouvernements se disputent depuis mars le pouvoir. Les États-Unis et le Maroc, pays hôtes, ont lancé aujourd'hui à Agadir l'exercice militaire African Lion 2022, le plus large sur le continent africain. Ces manœuvres annuelles vont se dérouler jusqu'au 30 juin au Maroc, mais aussi en Tunisie, au Sénégal et au Ghana, a indiqué le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM. Elle mobilise plus de 7500 soldats originaires de 10 nations, avec des observateurs militaires en provenance de l'OTAN et d'une quinzaine de pays partenaires, dont pour la première fois, Israël.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afrique est otage de l'invasion russe en Ukraine, à l'origine des tensions sur le marché des céréales destinées à l'exportation vers le continent. C'est ce qu'a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours en visioconférence adressé aux membres de l'Union africaine. Yakuba Ouedraogo.
Le niveau injuste des prix alimentaires provoqué par la guerre russe se fait douloureusement sentir sur tous les continents, a déploré le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a indiqué que des négociations difficiles sont en cours pour débloquer les ports ukrainiens où des millions de tonnes de céréales ne peuvent être exportées vers l'Afrique en raison du blocus de la flotte russe en mer Noire. Il affirme vouloir intensifier le dialogue avec les États membres de l'Union africaine en nommant prochainement un représentant spécial de l'Union africaine pour l'Afrique. Le président sénégalais Macky Sall, qui assure la présidence de l'UIA, a salué surtout l'adresse conviviale de Zelensky, réaffirmant que l'Afrique reste attachée au respect des règles du droit international, à la résolution pacifique des conflits et à la liberté du commerce. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a réitéré sa position sur la nécessité d'un dialogue pour mettre fin au conflit.
En Colombie, le candidat de gauche Gustavo Petro, ancien guérillero, qui a fait campagne en promettant de profonds changements économiques et sociaux, a remporté l'élection présidentielle de dimanche au détriment du magnat de l'immobilier Rodolfo Hernandez. L'ancien maire de la capitale Bogota, actuellement sénateur, a promis de lutter contre les inégalités, notamment en rendant les études universitaires gratuites et en réformant les régimes de retraite. Le gouvernement allemand organise vendredi à Berlin une conférence internationale sur la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine, en présence notamment du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, a annoncé aujourd'hui l'exécutif allemand. La conférence visera notamment à stabiliser les approvisionnements alimentaires dans le monde, a de son côté précisé sur Twitter la chef de la diplomatie allemande. Ce sommet interviendra 2 jours avant le début en Bavière du sommet du G7, présidé cette année par l'Allemagne. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Mfa.
L'Afrique est otage de la crise russo-ukrainienne, a fait savoir ce lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé en visioconférence aux ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine. Des négociations difficiles sont en cours pour débloquer les ponts ukrainiens, a-t-il annoncé, ajoutant que des millions de tonnes de céréales ne peuvent être exportées vers l'Afrique en raison du blocus russe de la mer Noire. Les compagnies aériennes s'attendent à réduire leurs pertes cette année et à revenir dans le vert en 2023 à la faveur d'une forte reprise de la demande des passagers, a indiqué l'Association internationale du transport aérien. Le secteur devrait encore perdre 9,7 milliards de dollars cette année, mais il s'agira d'une énorme amélioration selon l'IATA. La pandémie de COVID-19 a torpillé le secteur aérien qui a perdu 60% de ses clients en 2020. Une délégation d'industriels et d'hommes d'affaires égyptiens est arrivée dimanche en Israël. Les entreprises concernées font partie du protocole ZIQ sur les zones industrielles qualifiées qui exemptent de taxes douanières américaines les produits égyptiens fabriqués avec au moins 10% de matériaux israéliens. Selon le ministère israélien de l'économie et de l'industrie, la visite va contribuer à promouvoir les intérêts d'Israël et de l'Égypte. En 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 330 millions de dollars.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Samuel Eto'o plaide coupable de fraude fiscale en Espagne.
Oui, l'ex-footballeur camerounais a conclu un accord avec le parquet espagnol qui le poursuivait pour fraude fiscale afin d'éviter d'aller en prison. L'annonce est faite par un tribunal de Barcelone. Selon les termes de cet accord, Samuel Eto'o a été condamné à une amende et une peine de 22 mois de prison, mais ne sera pas incarcéré. Comme le prévoit la loi espagnole, cette peine est inférieure à 2 ans et il n'a pas d'antécédent judiciaire en Espagne. Le montant de l'amende s'élève à environ 1,8 million d'euros, selon la presse espagnole. Samuel Eto'o et José María Mesales, son ex-représentant qui a été condamné pour sa part à 12 mois de prison et à une amende, devront aussi rembourser au fisc espagnol la somme fraudée, soit près de 3,9 millions d'euros. Le parquet poursuivait l'ancienne star du football africain, devenu fin 2021 président de la Fédération camerounaise, pour 4 délits contre le fisc remontant aux années 2006-2009.
Les awards de la Confédération africaine de football sont de retour.
Cette prestigieuse cérémonie de remise des récompenses aux meilleurs acteurs du football africain aura lieu le 21 juillet prochain au Maroc. L'annonce est faite par l'instance africaine du ballon rond sur son site web. Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres du groupe d'études techniques de la CAF, des journalistes sélectionnés et des légendes du football africain. La période prise en compte va de septembre 2021 à juin 2022. Le Sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Assissa Oshoala ont respectivement remporté les titres de joueurs et joueuses de l'année en 2019.
Des nouvelles du marché des transferts.
Oui, le défenseur international marocain Naïef Haguert, 26 ans, s'est engagé pour 5 ans avec West Ham dans le cadre d'un transfert estimé à environ 35 millions d'euros, primes comprises. L'annonce est faite par le club anglais de Premier League. Naïef Haguert jouait depuis 2 saisons à Rennes qui l'avait acheté à Dijon pour près de 5 millions d'euros. Et puis Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, pense que le milieu de terrain international portugais, Bernardo Silva, l'un des hommes de base de ses Citizens, resterait au club la saison prochaine. Selon la presse espagnole, Bernardo Silva, 27 ans, pourrait intéresser Barcelone, surtout si le départ du néerlandais Frankie de Jong se confirmait. Et pour finir, l'éventualité du retour de l'attaquant belge de Chelsea, Romelu Lukaku, à l'Inter Milan est une piste faisable, mais il y a encore des difficultés, affirme Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club Nerazzurro. Selon la presse espagnole, Chelsea pourrait accepter de laisser son joueur à l'Inter la saison prochaine sous la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros hors bonus.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le week-end a été très sanglant au Mali. Ce soir, Bamako parle de près de 132 civils tués par de présumés djihadistes. Un précédent bilan faisait état de 190 morts, des morts causées par des attaques d'hommes armés qui ont visé plusieurs villages dans le centre du pays. Des renforts de l'armée malienne seraient sur place. Bagassi Koura a recueilli la réaction de Noum Togo, un homme politique qui a perdu plusieurs de ses frères dans l'attaque de Diala Sagou.
Ce que je sais, comme le vendredi, c'est sur moi, Diala Sagou, c'est mon village. Donc à Diala Sagou, il a été informé vers 16h-17h de l'attaque des terroristes sur mon village. Diala Sagou, ils ont pu rassembler presque tous les bras valides et sont arrivés au marché. Ils ont brûlé l'ensemble des boutiques. Ils ont incendié le marché. Ils sont passés famille par famille pour prendre les bras valides. On les a mis à côté et ils sont sortis avec eux à quelques kilomètres de la ville. Une centaine de personnes enlevées, ils les ont abattus des balles dans la tête et ils les ont tués. Alors donc aujourd'hui même à Diala Sagou, nous continuons dans la commune de Diala Sagou à ramasser certains corps. Nous avons estimé, mes frères, j'ai des frères de sang là-dedans, on a estimé ce qu'ils étaient là-bas pour enterrer les gens à plus de 80 et quelques corps enterrés. Et jusqu'à preuve du contraire, ceux qu'on n'a pas retrouvés, on continue à chercher. Même aujourd'hui, ce matin, on a ramassé plus de 3 à 4 corps dans les communes de Diala Sagou. Et à Diabali, à quelques kilomètres de Diala Sagou, nous avons aussi trouvé de façon horrible 52 corps. Et une autre petite village qui se trouve à quelques kilomètres de Diabali, 46 corps ont été découverts donc de façon macabre.
Là, on parle de...
Nous pouvons dire, on peut parler de plus de 190 morts parce que nous n'avons pas fini jusqu'à présent à enterrer, à continuer à ramasser les corps. Et c'est les touristes qui sont venus qui aujourd'hui pensent qu'il faut régler des comptes avec la population parce qu'ils ont des stratégies. La stratégie, c'est de faire en sorte de créer la terreur pour que les gens n'arrivent pas à cultiver cette année parce que vous savez que Diala Sagou est le grenier de Sénou, de Sénou Bankas où on cultive les petits mils. Or, les Maliens, à 90%, utilisent les petits mils. Donc aujourd'hui, ils veulent créer la terreur pour qu'on ne puisse pas cultiver pour donner la famine. Parce que l'an passé, avec l'insécurité et la sécheresse, on n'a pas bien cultivé. Et les prix des sacs sont arrivés jusqu'à 35 000, jamais vus. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour créer donc, des paniques un peu partout. Mais nous pensons que les Maliens vont tenir pour éviter toute autre escalade.
Est-ce que vous savez s'il y a des mouvements de population, des gens qui ont fui ces zones-là?
Non, les mouvements de la population, ça c'est normal. Parce que si pour la terreur, on sait... Forcément, il y a des déplacés. Ceux qui veulent bouger, pour qu'on bouge, Diala Sagou a été vidé carrément, avec plus de 25 000 habitants. Aujourd'hui, presque, il laisse des femmes et des enfants en ville. Les bras valides de plus de 100 ont été abattus. Alors, donc, forcément, donc, il y a des mouvements donc, vers les grandes villes comme Bankas, comme les villages limitrophes de Diala Sagou, pour aller se réfugier.
L'armée est arrivée sur place.
L'armée est arrivée sur place et 4 ministres sont en train de se déplacer depuis 6 heures pour aller vers Diala Sagou pour rencontrer la population et travailler avec eux donc, pour les remonter le moral.
Voilà, c'était Noum Togo, homme politique malien. Le gouvernement, je l'ai dit, parle ce soir de 132 civils tués selon un nouveau bilan.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Direction la Guinée, où l'on attend toujours l'exécution du chronogramme de la transition depuis l'adoption d'une durée de 3 ans par le Conseil national de la transition, organe législatif. Voyons ce qu'en disent les acteurs de la société civile guinéenne au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
Le retour à l'ordre constitutionnel pourrait intervenir en Guinée au bout de 3 ans, selon le délai validé par le CNT. Mais des voix discordantes se font entendre pour réclamer un nouveau chronogramme issu du dialogue entre les acteurs sociopolitiques et la junte au pouvoir. Ibrahima Balea Diallo, président du Forum civil guinéen.
Moi, j'ai le sentiment que cette transition, elle est bloquée, parce qu'on n'a pas d'abord institué ce cadre de dialogue tant réclamé par les forces essentielles politiques et sociales. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une crise. Aujourd'hui, le blocage est là, il est réel, et je crois que même les instances internationales ont noté cet état de fait.
Une partie de la classe politique accuse les autorités militaires de faire cavalier seul, un avis que partage ce juriste. Pour une sortie de crise, Fayimba Mara conseille le respect de l'article 77 de la Charte de la Transition.
La Charte de la Transition, qui est la boussole de la gestion de la transition, qui dit dans son article 77 que le chronogramme de la transition doit être fixé de commun accord entre le CNRD et les forces vives de la nation. Alors aujourd'hui, depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, depuis la mise en place des organes de la transition, on a vraiment constaté que cette disposition phare de la transition est en train d'être violée sur toute la ligne. On a l'impression que le CNRD est en train de faire cavalier seul et les acteurs majeurs de la transition composés par les forces vives de la nation sont laissés pour compte. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une crise autour du chronogramme, autour du calendrier de la transition.
Une crise, mais qui peut vite trouver une solution si les Guinéens acceptaient d'accompagner la transition, soutient Abdourahmane Baldé, coordinateur national de Patriotisme en Action.
Pourquoi on ne déciderait pas de considérer la démocratie comme étant également la stabilité nécessaire à la refondation de l'État, à la lutte contre la corruption, pour que nous puissions assainir avant d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, inclusives?
La Guinée sera de nouveau sur la table des chefs d'État de la CEDEAO à l'occasion d'un nouveau sommet prévu le 3 juillet prochain dans la capitale ghanéenne. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
La fermeture mardi dernier des barrières entre la RDC et le Rwanda fait plus de mal que de bien à certaines couches de la population des deux côtés de la frontière. À Goma, les étudiants et petits commerçants sont les plus affectés. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
À 14h20, Dorerimana Jean-Baptiste, jeune Rwandais qui fréquente l'université de Goma, est déjà près de la petite barrière. Il s'apprête à traverser car à 15h10, elle sera fermée.
Pour le moment, je suis en train de voir comment regagner le Rwanda parce que on est obligé de traverser la frontière avant 15h. En tout cas, ça impacte négativement du côté des études parce qu'on est obligé de quitter l'auditoire avant la fin du cours.
Pour surmonter cette difficulté, il envisage simplement d'échanger d'adresse.
Pour la suite, on va voir comment vraiment venir s'installer définitivement ici dans la ville de Goma.
À partir de 15h, aucune traversée de la frontière ne sera plus autorisée et toutes les femmes actives à la petite barrière seront forcées de rentrer chez elles. Mado Tamouija est cambiste avec tous les manques à gagner et l'estime que la mesure devrait être levée.
Dès qu'il est en train de sonner 15h, toutes les activités cessent ici et nous rentrons à la maison. Que les autorités remettent les heures de fermeture et comme avant, sinon nous allons mourir de faim, nous rentrons souvent sans travailler.
Du côté des personnes handicapées physiques qui exercent le petit commerce transfrontalier, si le gouvernement congolais repoussait d'une heure la fermeture des barrières, ce serait mieux. Madame Mami Koulimouchi est membre de l'association des personnes handicapées physiques Tungane.
Auparavant, nous amenions des légumes du Rwanda pour les vendre ici à Goma et nous faisons beaucoup de tout. Mais actuellement, nous sommes obligés de rentrer tôt à nos domiciles et ça nous pénalise. Qu'on ramène l'heure même à 16h, ça pourra nous faciliter.
Rappelons que cette décision des restrictions des heures de fermeture de toutes les barrières entre la RDC et le Rwanda a été prise vendredi 17 juin par le gouvernement congolais après l'incident à la petite barrière de Goma entre le militaire des deux pays voisins. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Les États-Unis commémorent ce lundi la Juneteenth, marquant la fin de l'esclavage, même si c'est seulement l'an dernier qu'elle est devenue une fête nationale reconnue par le Congrès et signée par le président Joe Biden. Elle est célébrée par les Africains-Américains depuis plus de 150 ans. Pour en savoir davantage, Abdourahman Dia a joint ici à Washington Marilyn Sefok, professeure à l'Université Howard.
Alors, Juneteenth commémore cette date où les Noirs américains dans l'État de Texas, en particulier à Galveston, ont reçu la nouvelle en 1865 de leur émancipation. Alors, il s'agit là d'une fête qui est extrêmement importante pour les Noirs américains puisque ça représente la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Beaucoup de personnes nous disent maintenant que ce n'est que 2 ans après que les Noirs américains au Texas ont su qu'ils étaient libres. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ils avaient déjà la nouvelle, mais ça n'était pas mis en pratique, en fait. L'abolition de l'esclavage n'avait pas tout à fait été mise en pratique.
Est-ce que la mise en pratique a été facilitée justement par la fin de la guerre civile?
A été facilitée par la fin de la guerre civile, oui. Au bout du compte, enfin, l'armée pouvait justement s'assurer que c'était pratiqué, que l'abolition de l'esclavage était pratiquée.
C'est vrai que beaucoup d'États célèbrent la Juneteenth depuis des années, au Texas c'est depuis 1980. Pourquoi c'est seulement en 2021 que Juneteenth est devenue une fête nationale?
Alors, Juneteenth est devenue une fête nationale en grande partie grâce à Madame Opal Lee. Madame Opal Lee, c'est une grand-mère de 95 ans qui, depuis 6 ans, donc depuis qu'elle est à l'âge de 89 ans, a décidé de faire campagne pour que Juneteenth soit reconnu par au niveau fédéral, par le gouvernement fédéral. Donc, elle a organisé une marche depuis Galveston, Texas, jusqu'à la Maison-Blanche, jusqu'à Washington, pour que ce jour de 19 juin soit reconnu au niveau fédéral. Elle a réuni plus d'un million de signatures pour que, justement, ce Juneteenth soit reconnu par les autorités au niveau national.
Et il y a aussi eu les manifestations après la mort de George Floyd qui ont contribué, non?
Absolument. Après la mort de George Floyd, ça a galvanisé, sa mort, son assassinat par la police a galvanisé, si vous voulez, beaucoup de gens aux États-Unis, en particulier évidemment dans la communauté africaine-américaine, et les gens se sont mobiliser encore davantage pour le Juneteenth.
Marilyn Sefokle, enseignante à Howard University.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, zoom sur la situation des réfugiés dans le monde avec la célébration en début de semaine de la journée qui leur est dédiée. Cette année, le thème porte sur le droit de demander l'asile alors que de plus en plus de pays durcissent les conditions d'entrée des personnes forcées de fuir leur foyer. Les conflits armés ont poussé près de 90 millions de personnes vers les chemins de l'exil. Comment continuer à garantir le droit d'asile dans un contexte de restrictions de plus en plus marquées? Comment limiter le flux de réfugiés alors que les foyers de tension se multiplient dans le monde? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.